Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 24e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. L'autrice à l'honneur aujourd'hui est Amandine Marval. D'origine corrézienne, Amandine Marval vit aujourd'hui à Périgueux. Après une première vie en tant qu'avocate, elle a décidé de troquer ses conclusions juridiques contre des romans, plaidant désormais la cause des personnages qui refusent de la laisser dormir tranquille. Je vous invite à découvrir quelques pages de son premier roman « Feel Good »,« Demain sera parfait » ou presque, publié en septembre 2025. Prologue. J+1.
Tiens, ma petite, bois. Ça requinquerait un mort,
m'intime Papilou en me tendant un mug ébréché au contenu douteux.
L'odeur de sa potion mentholée me fait sortir à toute vitesse de ma torpeur et de mon lit. Je sprinte jusqu'aux toilettes pour vider de nouveau mon estomac déjà béant.
Mes jambes en coton parviennent tant bien que mal à me ramener sous la couette. Dans la semi-obscurité, et malgré les coups qui martèlent mon crâne, je ne peux que constater l'échec de mon existence. Je fonds en larmes en repensant à cette soirée qui sonne le glas de tous mes espoirs. Qu'est-ce qui m'a pris, bon sang ? L'abattement auquel s'est ajoutée la honte m'a fait perdre pied. Je me rappelle seulement de bribes de la fin de soirée, au moment où j'ai empoigné le micro. Mon ventre se tord tellement l'humiliation m'accable. On dit que la vieillesse est un naufrage. Pour ma part, je suis précurseur, car à 32 ans, ma vie en est déjà un. Pas un petit raté dans un domaine bien précis, non, non, un fiasco global et complet. On ne peut pas me taxer d'avoir fait les choses à moitié. Pour preuve, ma carrière campe dans une impasse et ma vie amoureuse, quant à elle, stagne au point mort. Une vraie tempête. Pourtant, mon quotidien glissait sur des rails. Qu'ai-je bien pu faire pour que tout parte en vrille aussi rapidement ? Je me roule en boule dans l'espoir de trouver un peu de chaleur dans ce lit vide, mais mon corps est glacé.
« Philippine ? Comment tu te sens ?»
me demande Roméo depuis l'embrasure de la porte. Je suis incapable de répondre sans m'effondrer. J'ai envie de rester terré dans mon abri de fortune et de ne plus jamais en sortir. Pourtant, savoir que mon ami est là pour moi réchauffe un brin mon cœur endolori. Ne t'en fais pas, ma filette. Demain sera parfait.
Chapitre 1. 3 mois avant la tempête. J-95, 27 mars.
Vous êtes bien sur le répondeur de Roméo, je ne suis...
Je coupe d'un doigt rageur ce sempiternel message d'absence qui se répète pour la 5e fois. Mon téléphone vibre enfin. Avec une joie non dissimulée, je décroche.
Ah, mon Roméo, ce n'est pas trop tôt.
Un bruit sourd, pareil à un borborygme de lendemain de soirée, résonne. Je me félicite d'avoir privilégié l'appel audio à la visio. Le son me renseignant largement sur l'état semi-comateux de mon ami.
Roméo, tu m'entends ?
Putain, filette, il est 6h du mat. J'espère que tu as une bonne raison de me réveiller, bougonne-t-il.
La meilleure, devine quoi ?
Un silence assourdissant me répond. Remettant de l'ordre dans mes longs cheveux emmêlés, je me décide à lui révéler le motif de ma liesse.
Étienne m'invite ce week-end à Biarritz, dans la résidence secondaire de ses parents. Tu sais ce que ça signifie ?
Roméo s'éclaircit la voix aussi discrètement qu'un camion qui redémarre après avoir calé.
Et ?
Je ménage le suspense quelques secondes, dans l'espoir d'éveiller son intérêt.
« Eh bien, mon petit Roméo, tu vas bientôt pouvoir m'appeler Madame Étienne Lacan !»«
Toi qui te dis féministe, persifle-t-il. »«
Bon, arrête de ronchonner, tu pourrais au moins être heureux pour moi. »«
Je le suis, ma filette, félicitations, »
répond-il doucement. « On en discute ce soir au nouveau bar cubain ?»«
Oui, je t'embrasse. »
Je me pelotonne sous la couette afin de me maintenir dans cette chaleur ouatée. Le soleil commence à poindre, se reflétant sur les boiseries claires de mon appartement. Je dois admettre que je suis déçu de la réaction de mon meilleur ami, bien que je sois consciente qu'Étienne et lui n'ont jamais été sur la même longueur d'onde. Étienne est toujours tiré à 4 épingles dans son costume sur mesure, sûr de lui. Roméo, lui, est plus décontracté, tellement sensible avec ses boucles folles qui font craquer les patientes de son cabinet de kinésithérapie.
Dommage pour elle, mais Roméo n'a jamais été attiré par les Juliettes. Et ça, je l'ai su bien avant lui.
Mon réveil affiche déjà 6h40, et si je ne prends pas garde, je risque d'être en retard à mon rendez-vous professionnel. Bercé par le chant des moineaux qui ont élu domicile dans le platane à proximité de mon balcon, je repousse ma couette et enfile des chaussettes de ski pour atteindre la salle de bain. Manquant de glisser, telle une patineuse artistique, la grâce en moins, je me faufile sous la douche après m'être délesté du large t-shirt laissé la nuit dernière par Étienne. L'eau brûlante et les vapeurs mélangées à mon savon à la fleur d'oranger détendent les muscles de mon corps. J'en profite pour rêvasser à la merveilleuse vie qui nous attend. J'arrive au cabinet à 8h30 précise. Sur la porte, une plaque en laiton indique « Philippine Delmont, avocate en droit des affaires ». Chaque matin, je m'adonne au même rituel, caresser du bout des doigts la plaque dorée comme pour m'assurer de sa réalité. Mon bureau, en revanche, est moins reluisant. Il s'agit d'une petite pièce située plein nord et dotée d'une fenêtre que je qualifierais plus de meurtrière au regard de son étroitesse. Le seul point positif est qu'en cas d'attaque extérieure, je n'ai aucun risque d'être touché par un projectile, à moins que l'assaillant pratique le lancer de javelot à un niveau olympique.
Philippine, vous auriez pu prévenir que vous comptiez prendre votre matinée.
Perdu dans mes pensées, je n'ai pas vu arriver Angéline Dupin-Morand, ma bosse. Les fées qui se sont penchées sur son berceau l'ont doté d'un immense professionnalisme, mais ont zappé le côté humain. Aussi, je tolère ses critiques en espérant gagner son respect et être promu associé dans les prochains mois. Je jette un œil à ma montre connectée qui affiche 8h40 sous son regard courroucé.
Le président de la société Fouchard attend en salle de réunion. Rejoignez-nous immédiatement avec le dossier du café et des sucrettes.
Avant que je puisse m'expliquer, la brune en talons aiguilles fait volte-face, me laissant sans voix. Dans son sillage, son parfum capiteux, puis ce grand échalas de Quentin qui lui emboîte le pas tel un poussin suivant sa mère. Je connais Quentin depuis notre première année à la faculté de droit de Bordeaux. Je n'ai jamais pu souffrir son petit air supérieur. Et visiblement, notre inimitié est réciproque. Manque de chance, nous avons été embauchés dans le même cabinet à un an d'intervalle. Je paie cher son avance de 12 petits mois. Il se comporte comme un mélange de conquistador et de Pascal le grand frère. C'est un compétiteur né. Rien ne le stimule plus que la concurrence avec ses pairs. En somme, tout le contraire de moi qui préfère l'entraide et la synergie au concours d'éloquence. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, comme le dit l'adage. Depuis quelques semaines, notre chef nous laisse entendre qu'un poste d'associé va être proposé au meilleur élément. La compétition sera rude avec Quentin dans les pattes, mais je me sens capable de gravir des montagnes pour le plaisir de le toiser du haut de mon piédestal. Il s'arrête devant la porte de mon bureau, restée entr'ouverte, et me glisse un rictus indéfinissable aux lèvres.
« Dis donc, ma belle, d'après mes sources, une petite nouvelle va arriver pour renforcer l'équipe droit des sociétés. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une vague d'énergie et je t'assure que je ne vais plus compter mes heures pour rester au top. Enfin... « Je dis ça. Je dis rien. »
Je souffle d'agacement.
« Je vais faire comme si je n'avais rien entendu alors. Et arrête de m'appeler ma belle, c'est insupportable. »
Bien que je ne veuille rien montrer à Quentin, sa nouvelle me déconcerte. Comme à l'accoutumée, la chef n'a pas jugé bon de me prévenir. À moins que ce soit encore une ruse de Quentin pour me déstabiliser. Et ça marche. Je sens mon corps se raidir et ma boule au ventre s'amplifier. Je n'ai qu'une hâte, rejoindre Étienne pour notre déjeuner hebdomadaire dans notre petite brasserie. L'ambiance chaleureuse, les fauteuils confortables et l'impression d'intimité créée par les longues tentures de velours pourpre accrochées au mur m'entourent d'une sensation de bien-être. Assis, un verre de vin blanc à la main et l'air soucieux, Étienne, d'un petit signe, m'invite à le rejoindre. Je suis heureuse de le retrouver. Il est notaire dans l'office de son père et sait comment ne pas se faire marcher sur les pieds, lui. Me courbant pour l'embrasser, je lui susurre un doux « bonjour » assorti d'un « mon amour ». Il m'étreint, pressant goulûment sa bouche aux lèvres charnues contre la mienne. Je contiens mon envie irrépressible de me jeter sur lui. Depuis 6 ans, cet homme a le pouvoir de me faire chavirer en 10 secondes.
« Comment s'est passé ton rendez-vous avec Fouchard ?»
Comme à son habitude, la chef m'a présenté en tant que Philippine, sa collaboratrice, et pas en tant que Maître Delmont, avocate. Le client s'est adressé à moi une seule fois en m'appelant par mon prénom pour me demander où se situaient les toilettes.
Je te le dis, si tu veux gagner son respect, il faut que tu te rebiffes contre cette vieille pie.
Je baisse les yeux, consciente du bien fondé de ses propos. Pourtant, je décide de changer de sujet. Je ne l'ai pas rejoint pour parler affaires.
Alors, quel est le programme de ce week-end? Tenue chic exigée? Lui dis-je en le dévorant des yeux.
Hypnotisé par l'écran de son smartphone dernier cri, Étienne semble préoccupé.
« Comme tu voudras, ce sera bien »,
élude-t-il. Je lui prends la main et le questionne.
« Tu as l'air contrarié. »
Il presse mes doigts avec délicatesse et son regard, enfin posé sur moi, fait fondre mon cœur.
« Ne t'inquiète pas, bébé. Des soucis à l'étude, un dossier de succession complexe avec des clients merdants. »
La sonnerie de son portable retentit.
« Excuse-moi, c'est mon client, je dois répondre », dit-il en retirant sa main de la mienne.
Après 10 minutes d'attente, c'est seul que je picore ma salade végétarienne avec un supplément de tofu fumé au goût de carton recyclé pré-mâché. Je compte sur la carte des desserts pour me faire plaisir. Le stress dans lequel j'évolue au quotidien ne m'aide pas à perdre les quelques kilos stockés depuis mon embauche. Ma mère, qui pourrait s'habiller au rayon enfant tellement elle est fluette, me dit toujours en lorgnant mon assiette débordante
« Tu as très faim, je vois !»
avec une moue dépitée. Étienne reparaît, l'air grave.
« Je suis désolé, bébé, je dois y aller. On se voit vendredi. »«
Déjà, tu dors avec moi ce soir ?»«
Je risque de finir tard. Plutôt ce week-end.
Je t'aime, » souffle-t-il en m'embrassant mécaniquement. Je fais bonne figure pour cacher ma déception. Le serveur pose l'addition sur l'étroite table et, comme la dernière fois, je lui tends ma carte bancaire. Occultant mon malaise, je me rappelle nos projets du week-end en bord d'océan et me ragaillardis à ses douces pensées. Je passe l'après-midi à travailler sans relâche, interrompu par les gargouillis de mon ventre, regrettant ce fondant au chocolat qui me tentait tant. Ce soir, j'attends Roméo dans le nouveau bar cubain du centre-ville. Perché sur un tabouret, je me laisse envoûter par les sonorités latines et les effluves épicées. Je me remémore notre première rencontre, l'année de nos 8 ans, sur les plages d'Arcachon, où ses grands-parents vivaient et où je venais en vacances, dans la résidence secondaire de mes parents. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Bien sûr, nous nous sommes moins vus pendant certaines périodes de nos vies, mais nous avons toujours gardé un lien indéfectible. Roméo me rejoint, le sourire aux lèvres.
« Salut ma filette !» me glisse-t-il en m'embrassant sur la joue. « Sophia ne va pas tarder. Alors, comment te sens-tu depuis la « demande » sourit-il en mimant des guillemets sur « demande ».
Même après un cours particulier, je n'ai pas réussi à lui apprendre comment utiliser ce signe de ponctuation. L'usage qu'il en fait m'amuse toujours autant.
Je suis très heureuse et j'ai tellement hâte. Samedi dernier, Étienne est parti seul en ville. Tu sais combien il a horreur de l'effervescence du centre de Bordeaux en fin de semaine. En plus, il a prétexté un rendez-vous pour que je ne l'accompagne pas.
Et ?
Oh, mais tu fais exprès de ne pas comprendre. Je pense qu'il est allé choisir ma bague de fiançailles.
Tu as pris rendez-vous pour une épilation du maillot, j'espère ?
Bien sûr que non, je garde ma toison bien fournie pour lui rappeler ma couleur naturelle, m'esclaffais-je.
En voyant mon ami plier de rire sur la table, je me dis qu'il ne tient vraiment pas l'alcool. Pourtant, c'est avec sérieux qu'il poursuit.
« Tu es sûr qu'il va te faire une déclaration ? Lui qui est très mesuré, ça m'étonne qu'il ne t'ait pas préparé un contrat en 2 avenants avant votre séjour. »«
Tu le connais mal. Il peut être très fun quand il veut. Et son côté raisonnable me rassure. Tu sais comme il m'a épaulé, » soufflai-je les larmes aux yeux.
« C'est du passé, ma filette. Tourne-toi vers l'avenir.
Il est quand même un peu coincé, non ?»
Ma bonne humeur laisse place à une moue contrariée.
« Tout de suite les grands mots. Pourtant, je peux te dire qu'au lit, c'est un feu d'artifice. Même mieux, un son et lumière. »
Mon ami reste interdit, en tentant d'imaginer ce que ce spectacle pyrotechnique peut donner à l'horizontale.
« Bah, que vous me dégoûtez, toi et ton notaire pervers. Tiens, ça rime. »
Je lui lance une cacahuète au visage qui atterrit dans sa bière quasi vide. Je lève les mains en signe d'armistice. Je ne veux pas subir le courroux de mon ami dont le breuvage a été profané.
L'autre idiot de Quentin m'a encore saoulé. Tu sais ce qu'il a osé dire à la chef devant...
Brusquement, les yeux braqués sur l'entrée du bar, Roméo m'interrompt. Je l'observe s'agiter comme un grand diable pour se faire remarquer.
Roméo, assieds-toi, tu me donnes la nausée avec tes contorsions et tout le monde nous regarde.
Sans se soucier de mes remontrances, il continue sa manœuvre.
Sophia, on est là !
Hurle-t-il. Je me souviens comme si c'était hier de ma première rencontre avec Sophia. Elle était la secrétaire intérimaire du cabinet de kinésithérapie de Roméo. Ce dernier me l'avait décrite comme une sorcière des temps modernes. Aussi, je l'avais imaginée entre 2 âges, la chevelure flamboyante, vêtue d'un sarouel et dotée d'une colonie de poils sous les bras. J'ai cru défaillir en rencontrant cette jolie brune au corps gracile.
« Bonjour, bonjour, les amis » s'écrie-t-elle en me claquant une bise sonore qui me perce le tympan. Cette beauté méditerranéenne est une boule d'énergie. « Comment va la future mariée ?»
Je souris d'aise. La future mariée. Je suis une future mariée.
« Bon, alors, ton stage en numérologie ?» nous coupe Roméo. Les yeux de Sophia s'illuminent.
« C'est fabuleux !» lance-t-elle, pleine d'entrain. « Ça consiste en quoi ?» demandai-je poliment, bien que peu friande de ce genre d'art divinatoire. « Attends, ma belle, tu vas halluciner. Tu es née le 5 novembre 1994. »
Je la vois taper frénétiquement sur son portable.
« Oh, année 6 !»
Je déglutis, tentant de conserver une apparence détendue malgré la boule qui s'est formée dans ma gorge. Roméo part dans un long fou rire qu'il est le seul à comprendre. Décidément, l'alcool ne lui réussit pas. Sophia me lit le fruit de ses recherches avec un air professoral que je ne lui connaissais pas.
L'année 6 n'est pas de tout repos. Il se pourrait qu'il y ait du changement dans l'air. Nouveau partenaire de vie, nouveau travail, voire un déménagement. Cela peut être une période peu agréable, mais au bout du tunnel, il y aura de la lumière.
C'est quoi ce ramassis de bêtises? Je vais faire une expérience de mort imminente ou quoi?
N'importe quoi.
Rajustant ma position sur ce tabouret inconfortable au possible, je me sens soudain oppressé dans cette atmosphère survoltée. Bien que je ne croie en rien à toutes ces fadaises, entendre des prédictions aussi pessimistes me peine. Je n'ai plus qu'une seule envie, appeler Étienne et rentrer chez moi. Je fais bonne figure afin de ne pas gâcher l'ambiance joviale. Pourtant, en prétextant un mal de crâne imminent, j'embrasse mes amis avant de regagner mon cocon. Chapitre 2, J-93, 29 mars. Après une semaine qui m'aura paru interminable, vendredi soir est enfin là. J'ai enchaîné les rendez-vous sans une seule minute à moi. Ma valise, enfin bouclée, contient tout ce que j'ai de plus sexy. Mon cœur léger, prêt à exploser, attend fébrilement la sonnerie de mon téléphone qui m'indiquera que mon futur mari m'attend en double fil en bas de l'immeuble. Je regarde avec tendresse le cliché qui trône sur ma table de nuit, Étienne et moi enlacés devant la statue de la liberté. Notre rencontre a été une évidence et notre complicité immédiate. Il m'a rapidement révélé avoir ressenti un véritable coup de foudre au premier regard. Nous étions au gala des anciens étudiants de droit. L'ambiance festive et joyeuse, agrémentée d'un soupçon d'alcool, m'avait entraîné sur la piste de danse. Désinhibé, je dansais telle une Beyoncé au Stade de France. En tout cas, je l'imaginais. Une vidéo de ladite danse m'a fait comprendre la différence entre réalité et ressenti. Avec mes longs bras qui brassaient l'air, je ressemblais plutôt à une Claudette à deux doigts de heurter un étudiant inconscient qui s'approchait d'un peu trop près. Parmi ces irréductibles imprudents, Étienne a bravé mes gestes saccadés de tectonique démodée et s'est déhanché à mes côtés. À 5 heures du matin, harassés par nos contorsions sur la piste, nous sommes partis main dans la main à la recherche d'un petit déjeuner. Un long baiser est venu clore cette merveilleuse soirée. La sonnerie de mon téléphone portable m'interrompt dans mes souvenirs. Je me lève d'un bond et manque de trébucher sur ma valise posée à mes pieds. En état de panique, je me force à rassembler mes affaires avant de verrouiller ma porte à double tour. J'insiste sur le bouton de l'ascenseur, coincé entre deux étages, avant de me résoudre à prendre l'escalier. Dévalant les marches qui me séparent d'Étienne, je heurte dans le hall un homme de dos, un fauteuil en velours bleu canard dans les bras.
« Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. »
« Enchanté, je suis nouveau dans l'immeuble. Désolé pour le désagrément, » répond la silhouette d'une voix grave.
Pas de temps pour la politesse, je cours vers la sortie. Pam, 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 marche nuptiale en tête, je déboule dans la Mercedes cabriolet d'Étienne, un sourire lumineux aux lèvres. Il m'accueille d'un chaleureux
« Grouille-toi bébé, un gros con, n'arrête pas de me klaxonner depuis 5 minutes !»
Je me tends imperceptiblement, mais me raisonne. Étienne a passé une semaine compliquée et doit être épuisé. Je me radoucis, d'autant que j'aperçois un bouquet de 5 roses rouges posées sur la minuscule banquette arrière. Étienne n'a pas pour habitude de me couvrir d'attention et j'en suis d'autant plus touché. Le trajet Bordeaux-Biarritz, pourtant assez rapide en semaine, me paraît infini. Tous les Bordelais ont eu la même idée que nous. Par ailleurs, Étienne n'a pas réussi à recapoter son coupé. Résultat, je suis sourd, présente une tignasse à faire pâlir Tina Turner et j'ai la gorge en feu d'avoir parlé dans ce brouhaha. 3 heures plus tard, nous sillonnons enfin les petites routes jouxtant l'océan qui scintillent de 1000 nuances de bleu marine. J'aime tellement cette ville, ses complexes de thalassothérapie, son casino, ses halles si vivantes et la promenade sauvage menant au rocher de la Vierge.
Devant la superbe villa cossue à l'architecture si typique héritée de la famille d'Étienne, j'imagine déjà nos enfants gambader dans le jardin ombragé sous mon regard maternel. Un sourire radieux accompagne ma tentative de me recoiffer avec la paume de ma main. Sans préambule, Étienne me propose d'aller prendre un verre dans le bar d'un magnifique hôtel à proximité du phare. Je pensais qu'on prendrait le temps de s'installer et de se rapprocher un court instant. Il est évident qu'il est pressé de me faire sa demande, et je ne vais pas m'en plaindre. Main dans la main, nous nous dirigeons vers cet endroit que j'apprécie tant et qui me rappelle de bons souvenirs. C'est ici que j'ai rencontré les parents d'Étienne, ici également qu'il m'a dit « je t'aime ». La beauté des lieux me laisse sans voix, comme à chaque fois. Ce vaste hall révèle une verrière au plafond tandis que les murs pourpres accentuent l'ambiance feutrée et fastueuse. Installé sur une confortable banquette en cuir, Étienne, habituellement si sûr de lui, bafouille une coupe de champagne à la main.
« Philippine, ma chérie, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te parler, ou plus exactement pour te proposer... Je ne sais pas trop par quoi commencer. »
Il s'éclaircit la voix et dirige sa main dans la poche avant de son pantalon. Je ne tiens plus en place. J'ai envie de hurler « Oui !» Je suis fébrilement des yeux cette main pleine de promesses, mais contre toute attente, il sort un mouchoir usagé pour s'éponger le front. On repassera pour le côté romantique. Mon attention se fixe à nouveau sur le visage ému de l'homme de ma vie. Il ne me regarde pas dans les yeux, mais fixe mon front. Émotion, quand tu nous tiens. Je sens sa main se liquéfier au contact de la mienne. Je lui souris, l'encourageant à abréger.
Je t'ai parlé de la relation qu'entretiennent mes parents. Mon père a toujours été un coureur de jupons invétéré, et ma mère a toujours souffert de ses écarts de conduite.
Il laisse sa phrase en suspens, submergé par une émotion profonde qui me surprend. Étienne ne m'a jamais caché la relation chaotique de ses parents. Son père trompe sa mère ostensiblement et cette dernière oscille entre dépression et comportement compulsif. J'admire mon homme qui, malgré ce triste exemple, a su rester loyal et fidèle.
Pour ma part, je n'ai pas envie de te faire subir ça.
C'est très louable de sa part, mais cela demeure une entrée en matière curieuse pour une demande en mariage. Il ajoute, l'air grave,
« Philippine, j'aimerais que notre relation évolue. »
« Bien sûr !» Le teint d'Étienne est cramoisi et des gouttes de sueur perlent sur son front.
« J'aimerais te proposer quelque chose de peu commun. Accepterais-tu qu'on ouvre un peu notre horizon ?»
Mon sang se glace. Je ne comprends pas la question.
« Quoi ?»« La vie, c'est un peu comme les placements financiers. C'est toujours bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour engranger des bénéfices. Qu'est-ce que tu en penses ?»
reprend-il avec plus d'assurance. Ne voyant pas tellement le rapport entre des horizons ouverts, un livret A et des poules, je reste interdite.
Philippine, tu es d'accord avec moi ?
Ma conseillère financière m'a dit qu'en effet, il fallait diversifier les investissements pour préparer la retraite, bafouillai-je circonspecte. Pourquoi tu me parles de ça ?
Je vois son teint viré au pourpre, signe d'un malaise évident. « Excuse-moi, bébé, je ne suis pas très clair. En fait... »
Étienne regarde ses pieds, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Après une dizaine de secondes où je retiens ma respiration, il se décide enfin à parler.
« J'ai peur que tu le prennes mal. Je me sens un peu oppressé dans notre relation. Je constate que tu as beaucoup d'attentes que je ne peux satisfaire pour le moment.
Je sens la colère et la panique m'envahir. »
« Je ne comprends pas un traître mot de ton charabia. Qu'est-ce que tu veux, bon sang ? Tu souhaites me quitter et tu ne sais pas comment le dire ?»
Les personnes attablées se retournent vers nous. Étienne répond doucement.
« Pas du tout, ma chérie. Je t'aime tellement. »
Ces paroles font l'effet d'un pansement sur mon cœur mis à mal. Étienne poursuit, plus sûr de lui, broyant ma main dans la sienne.
« Je souhaite sortir avec d'autres personnes. »
Face à mon expression interrogative, le couperet tombe.
« Je ne veux plus de relations exclusives. »
Son air soulagé après sa confession me gifle, et une vague d'émotion déborde, me donnant envie de pleurer. Mes jambes en coton m'empêchent de me lever. Je me pétrifie sur cette banquette en cuir d'un blanc immaculé. L'ambiance chaleureuse s'est muée en atmosphère lugubre. Plus avenant, il se rapproche de moi.
« Excuse-moi, Philippine, bébé, je t'aime et je ne veux pas que tu souffres. Je préfère te dire les choses plutôt que de te mentir. »
Il caresse doucement mon visage, efface une larme qui roule au coin de ma paupière, puis murmure «
Dis-moi, ma chérie, ce que tu ressens. »
À cet instant,
Je fonds en larmes dans ses bras. L'odeur de son parfum boisé m'enveloppe tel un cataplasme réparateur. Pour l'instant, je n'ai plus envie de réfléchir. Je veux sentir Étienne contre moi et croire encore que tout est possible entre nous.
Vous venez d'entendre le début de « Demain sera parfait ou presque » d'Amandine Marval, disponible sur Internet et prochainement sur commande en librairie. Amandine Marval tient aussi une page Instagram intitulée « Zen la lecture » sur laquelle vous retrouverez ses chroniques littéraires et ses actualités. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou en laissant un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois. Thank you.